Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore heureux de partager ce que le Seigneur m'a montré à propos de la croix, à propos du lieu secret. Ceci est une série d'enseignements qui doit nous amener de façon pratique à résoudre deux questions essentielles. La première, c'est où rencontrer Dieu? Nous avons envie de rencontrer Dieu, nous nous levons le matin, nous plions notre tête, prions, nous déplaçons pendant la semaine, pour certains un jour, pour d'autres plusieurs jours le soir. Et nous allons rencontrer d'autres frères à un endroit que nous appelons église, ou temple ou autre, dans l'idée d'y rencontrer Dieu. Nous nous retirons parfois, nous allons dans un endroit calme, dans une maison, dans un lieu de retraite, dans un bois, dans une prairie, à côté de l'eau, sous un arbre, à côté d'un rocher, peu importe, dans l'idée d'y rencontrer Dieu. Où rencontrer Dieu? La femme samaritaine a demandé au Seigneur Jésus. Nos pères vont à la montagne, vous vous dites qu'il faut aller à Jérusalem, au temple, mais où faut-il aller adorer Dieu? Le Seigneur Jésus répond, il dit, c'est dans l'esprit. Et comment nous allons faire le lien entre l'esprit comme lieu secret de rencontre avec Dieu et les circonstances qui favorisent cette rencontre? Alors nous avons vu la relation entre l'Éden et Dieu et nous avons bien compris que l'Éden représente le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu où justement on s'est séparé de lui en péchant, et c'est le lieu où nous rentrons le rencontrer pour la réconciliation. Je ne vais pas dans les détails ici, mais je vous invite à suivre notre premier numéro qui justement parlait de l'Éden, comme la croix comme justement le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu où les délices se reprennent, mais aussi de façon contraverse la souffrance qui précède. Nous avons ensuite vu que la croix, ça se passe aussi dans le moment de la tombe et de l'ensevelissement, où nous descendons dans les profondeurs de la terre. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ veut parler de sa mort, il fait allusion à Jonas. Il dit de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Ainsi en sera-t-il au Fils de l'homme, et ce sera le miracle à donner. Le plus grand miracle pour Dieu, c'est de sauver l'homme, et l'homme le sauver du péché. Et pour sauver l'homme du péché, Dieu a institué la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a une étape, consiste en sa mort et en son ensevelissement, sa mise dans le tombeau. Il est très capital ici de saisir que le lieu de rencontre avec Dieu, c'est aussi dans les profondeurs de la terre, là, dans la bouche du poisson, où Jonas s'est retrouvé tout seul. Tout ce qui pouvait le sortir de là, c'est l'Esprit de Dieu qui est pénétré, qui lui a parlé, qui a restauré le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu, la volonté de Dieu, et donc qui a ôté le péché, puisque maintenant Jonas est dans la direction de Dieu. Et à partir de là, il peut sortir. Donc, nous de même, Dieu nous place dans des situations où les gens nous rejettent dans la mer, les gens, le grand poisson nous avale. Tout ce qu'il nous faut, c'est collaborer, puisque en réalité, ça semble être impétueux comme endroit à cause des vents, des tempêtes, de la mer qui se violente, des circonstances de rejet, des marins qui nous jettent dans l'eau. Ça semble ne pas être un chemin qui conduit vers Dieu, quand on sait que Dieu, c'est le lieu de délice. Eh bien, c'est cela la folie de la croix. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, je vais vers le Père, et qu'il allait à la croix, les disciples ont dit, non Seigneur, tu ne peux pas mourir. Les gens vous trouveront fou si vous laissez les circonstances vous amener à la mort. Mais en réalité, c'est l'invitation du Saint-Esprit pour commencer le processus de résurrection, pour que vous arriviez dans le lieu secret où il n'y aura personne et vous serez seul. Jésus a dit, bientôt, vous me laisserez seul. Mais c'est seulement là que la résurrection va commencer, que le Saint-Esprit va nous ressusciter d'entre les morts. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, si l'Esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, l'Esprit rendra la vie à vos corps mortels. Mais l'Esprit ne peut pas vous trouver en dehors de la bouche du poisson et vous sortir de la bouche du poisson. Il faut que vous soyez dans la bouche du poisson pour qu'il vous sorte de là. Donc collaborez avec les tempêtes, les vents, avec la mer qui s'est déchaînée, avec tous les problèmes qui frappent à votre vie. Collaborez avec les marins qui vous ont jugé et qui vous jettent dans l'eau, collaborez en acceptant que la justice de Dieu n'est pas en vous, que vous n'êtes pas dans le calendrier de Dieu, que vous n'êtes pas dans sa direction. Collaborez avec le grand poisson pour que vous rencontriez Dieu face à face. C'est le chemin, Jésus a dit. Prenez la croix, suivez-moi, je suis le chemin. Donc tout ce chemin bizarre, c'est un visage de Christ qui nous conduit vers le Père. Et c'est cela le chemin des fils, c'est de prendre la croix dans cette situation et de suivre le Seigneur vers la bouche du grand poisson. Et c'est là que se trouve le miracle de la sortie 3 jours plus tard. Maintenant, nous allons aujourd'hui voir la croix en lien avec l'histoire de Noé. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 6, vous pouvez prendre vos Bibles, Genèse chapitre 6, où on nous parle de l'histoire de Noé. On nous dit ici que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire que jamais les hommes ne concevaient ce qui est bien. Je voudrais vous rassurer. Lorsque vous dites à vous-même, aujourd'hui j'ai une bonne idée, je vais faire ceci, je veux faire cela. L'apôtre Paul dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les psaumes disent qu'il n'y a aucun qui cherche à faire le bien, pas même un seul. Toutes ces pensées, toutes ces paroles, tous ces actes que nous faisons chaque jour, motivés par des bonnes idées, en réalité, contiennent aussi des mauvaises idées. Mais que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est fait pour nous tromper en sorte que nous voyons seulement les bonnes idées. Nous ne calculons pas tout ce qu'il y a de mauvais derrière parce que le bien et le mal dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont. Et donc, nos meilleures pensées ne sont que pourriture. Elles sont méchantes. Elles sont tournées vers le mal. Nos cœurs, dans le meilleur de leur disposition, sont les cœurs les plus dangereux, les plus... Vous pensez qu'Hitler était de mauvaise foi quand il organisait l'Holocauste? Il était rempli de bonnes intentions pour la race allemande. Il était convaincu, je crois même, qu'il fait la volonté de Dieu. Je crois que c'est le Seigneur Jésus qui a dit que bientôt, les hommes seront convaincus en vous livrant qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, mais qu'en réalité, ils sont en train de pécher. Ne sous-estimez pas nos pensées. Ne sous-estimez pas notre capacité à faire le mal dans nos meilleures des bonnes dispositions. Ne vous trompez pas par notre jugement à croire que nous avons encore quelque chose de bien en nous. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la pensée de l'homme est perverti. La méchanceté de l'homme est grande sur la terre. D'après notre jugement, nous pensons encore qu'il y a des choses bonnes qui peuvent sortir de nos vies. D'après le jugement de Dieu, rien de bon ne sortira de nous. C'est pourquoi il a envoyé l'agneau. S'il pensait qu'il y a encore un homme de qui quelque chose de bien va sortir, il n'allait pas envoyer l'agneau, il allait utiliser cet homme. Mais aucun ne cherche à faire le bien, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous. Et ça n'a pas commencé en vous. Si vous pensez que ça a commencé en vous, vous pouvez changer ça. Ça a commencé en Adam. Vous n'avez fait que hériter. Nous n'avons fait que hériter d'Adam. Et donc, on ne peut pas changer ça. C'est depuis l'Éden. C'est dans notre génotype. Dieu ne regarde pas à toi. L'enfant qui naît, qui n'a même pas encore ouvert la bouche, Dieu le regarde. Il voit le péché d'Adam dans ses gènes. Et il n'y a pas moyen de nous sauver par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. La situation à l'époque de Noé, Genèse chapitre 6, verset 5, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ils étaient convaincus à l'intérieur que c'était le bien. Dieu regarde, Dieu qui a son propre jugement du bien et du mal, il regarde au jugement des hommes, il ne voit qu'une chose, il faut détruire. Si vous vous arrêtez, que vous vous retirez dans le lieu secret, que vous regardez le problème qui vous accable, qui vous dérange, le problème de génération, le problème d'emploi, le problème au travail, le problème avec les collègues, avec les clients, avec l'argent, le problème avec sa copine, avec son mari, avec son fiancé, avec ses enfants, avec ses parents, le problème avec soi-même, avec son corps, avec le matériel, avec les outils de travail, avec la nature, peu importe où se trouve ce problème, le problème avec vous-même, la source, c'est le péché, c'est le mal, c'est les pensées perverties. Et ça ne se résout pas en banalité, il n'y a pas quelque chose que vous allez faire de simple pour résoudre ça. Vous allez jeûner, ça ne va pas arracher ça. Vous allez prendre des bonnes résolutions, ça ne va pas changer ça. Vous allez rencontrer des gens, monter des conventions entre les États, faire inviter des experts en matière de médiation, ça ne changera pas. Dieu dit que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'il faut que tout ça rentre dans la poussière. Tout ça doit être anéanti. Il faut reconstruire à zéro. C'est ça que Dieu a dit. Et il faut que l'agneau soit abattu, que son sang soit coulé, que sa peau serve de vêtement pour vous. Il faut qu'il vienne avec sa puissance écraser Satan à la source. Il faut que le péché soit ôté, dit Jean le Baptiste. Voici l'agneau qui ôte le péché. Il faut la croire. Il faut que le Fils de l'homme donne sa vie et que cette vie entre en vous et opère l'œuvre de transformation. Alors, si l'époque de Noé ressemble à cette époque, si autour de vous, vous pouvez retrouver la même configuration, que les gens sont en train de mentir, que vous-même vous avez menti, qu'il y a des mauvaises intentions, qu'il y a de la suspicion, qu'il n'y a pas de confiance les uns les autres, que votre intelligence n'est pas suffisante pour résoudre ce problème, pour gérer ce matériel, que vous avez des limites, qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes même pas capable d'être sûr de vos décisions, que votre jugement est biaisé. Alors l'histoire de Noé, en lien avec la croix, nous sert de quelque chose. Quel est le lien que le Seigneur Jésus-Christ établit entre l'histoire de Noé et la croix? Nous pouvons donc aller retrouver cela dans Matthieu chapitre 24, verset 33. C'est le Seigneur Jésus qui parle. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Les hommes seront encore pervertis, en train de manger, c'est bien, en train de boire. Est-ce qu'il y a du mal à cela? C'est Dieu qui a fait la boisson, de se marier. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est bien, en train de créer leur propre délice, mais selon leur propre jugement de ce qui est bien et mal, mais pas le jugement de Dieu. Genèse chapitre 6 nous dit que Dieu a plutôt porté un autre jugement, un autre regard. Dieu voit plutôt le mal qui est pénétré dans cela. Le mariage ne se fait plus convenablement. La boisson ne se prend plus convenablement. Il y a de l'excès. Le manger ne se fait plus convenablement. Pour l'obtenir, il faut corrompre, il faut trafiquer, il faut faire ci, il faut faire cela. Dieu n'est plus dans l'équation. On mange, mais la gloire de Dieu n'est pas là. On a l'argent, mais on ne l'a pas obtenu de façon normale. On s'est marié, mais on s'est marié à notre façon. Voilà le lien. Jésus dit, à l'avènement du Fils de l'homme, il en sera ainsi. Waouh! Quelle est la provision de Dieu alors? Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. La grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. C'est par la loi que l'on connaît le bien et le mal. La grâce est venue par Jésus-Christ. Vous voyez, Noé n'a pas été sauvé parce que lui aussi n'avait pas péché. On dit ici que tous avaient le cœur chaque jour tourné uniquement vers le mal, y compris Noé. La différence, c'est que Dieu a institué un salut. Dieu a institué la croix où quelqu'un d'autre va subir le châtiment. Et celui qui croit sera sauvé de son péché, de ses mauvaises pensées, de son cœur tourné vers le mal, uniquement vers le mal. Maintenant, son cœur peut être tourné vers l'agneau. Maintenant, ses désirs peuvent être portés vers son époux, l'agneau. Voilà ce que Dieu a comme provision pour nous. Ce que, au lieu de te fabriquer tes propres feuilles comme habit, ta propre justice, ta propre définition du mariage, du manger, du boire, du travail, des relations entre les états, entre les familles, ta propre conception de toi-même, de la maladie, du corps, non. C'est l'agneau qui va être immolé. C'est son sang qui va couler et qui va parler à ta place. C'est sa justice qui va te revêtir de son habit, de son manteau, de sa peau. Noé trouva grâce. Et où est le lieu de la grâce? C'est la croix. Jésus dit à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Regardez bien. Noé entre dans l'arche. Les déluges commencent à envahir la terre. les eaux se déploient et détruisent tout sur leur passage parce que la quantité d'eau qui est tombée du ciel, ah, les tsunamis ont tombé, les inondations n'ont encore rien fait. C'est des quantités d'eau qui ne pardonnent pas. Jésus dit que personne n'a résisté. Mais regardez Noé, il est sur un morceau de bois. Le morceau de bois avec lequel le Fils de l'homme a été crucifié. C'est ce même morceau de bois avec lequel l'arche a été fabriquée. Le voilà qui surplombe les eaux. Les eaux tapent de tous côtés. Les vagues frappent. Il y a de la tempête. Comme exactement dans le bateau en route vers Ninive, vers Tarsis. Le bateau qui transportait Jonas. De la même façon, les tempêtes frappent. Jésus est dans la barque en train de dormir. Vous voyez ce que Noé fait? Il dort. 40 jours, 40 nuits, il dort. Le Seigneur dit, dormez, je gère la tempête, je gère le déluge, je gère les eaux. C'est moi qui les ai envoyés pour vous sauver, pour vous sortir de là. Mes amis, regardez le problème qui vous frappe. Regardez les accusations qu'on porte contre vous. Regardez tout ce qui vous menace. Regardez. Regardez, Jésus dit, c'est pour votre salut. Je fais concourir toutes choses pour votre bien. C'est pour que ma volonté soit faite. C'est pour que moi et toi, on se rencontre dans le lieu secret. Là, dans les souterrains. Là, dans la tombe. Là, dans la bouche du poisson. Là-haut. Voilà, Noé ne rencontre plus des pécheurs. Il ne rencontre plus la perversion du mal. Il n'est plus influencé par tout ce qui se passe autour de lui. Non, maintenant, il est dans la crainte. Dans le tremblement, il est dans une situation où il ne peut pas sauver sa vie. Non, il sait qu'à tout moment, une vague peut déchirer l'arche. Il l'a fait de ses mains. C'est juste un morceau de bois. Ça ne peut pas sauver sa vie. Il le regarde et dit, mon Dieu, ici, là, il me faut quelque chose de plus puissant que mon intelligence. Il me faut quelque chose de plus sage que moi. Et donc, il se laisse. Il dit, Seigneur, me voici. Pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne peux pas me sauver. Je suis dans cette tombe, mort. Je ne peux même pas prier. Mes membres ne peuvent même pas bouger. Je ne peux rien faire ici. Mais toi, tu peux me sauver. Noé regarde. Il regarde le vent. Il regarde les ravages qui se font sur la terre. Il ne peut pas se sauver. Ainsi donc, nous pouvons considérer l'arche de Noé comme une illustration de la croix et un lieu secret où Dieu te rencontre dans un face-à-face, t'ayant exclu du monde, t'ayant circoncis, t'ayant séparé, mis à part, pour que tu lui sois totalement consacré. Donc vous voyez très bien comment l'Éden nous circoncit du monde. La bouche du poisson circoncis du monde, nous sépare du monde. L'arche de l'Alliance nous sépare du monde. Et tout ça, ce sont des lieux secrets pour illustrer la croix où justement le Seigneur Jésus-Christ a été circoncis pour nous. Parce que la vraie circoncision, c'est celle du dépouillement de l'homme ancien que le Seigneur a fait à la croix et le revêtement de l'homme nouveau qu'il a fait à la résurrection. Voilà donc, Ésaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. » Verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Voilà notre provision. La croix, c'est les eaux. C'est la tempête, c'est le vent, non pour notre mort, non, mais pour notre vie d'entre les morts, pour notre résurrection en Christ. Alors nous passons par les eaux de la mort, mais les eaux ne nous submergeront pas. Amen. Merci d'avoir suivi avec attention. C'était un plaisir. Partagez ce contenu avec d'autres qui sont dans le besoin. C'est la parole que le Seigneur leur envoie pour les sortir de crise. Priez pour eux, prenez le temps de méditer et de demander au Seigneur de vous donner tout le sens pratique dans votre vie et qu'ayant été sauvés, vous aussi vous conduisiez d'autres au salut de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À bientôt. Vous pouvez toujours trouver plus d'enseignements sur www.apprendrechrist.net.